Vous êtes sur RTL.
RTL Midi.
Le 12h.
Pascal Pro, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous, Céline. Heureux de vous retrouver en ce lundi matin.
C'est un plaisir toujours partagé, Pascal. Bonjour, bonjour à tous. L'humanité doit choisir entre solidarité et suicide collectif. C'est ce que vient de lancer le chef de l'ONU à la COP 27, la 27e conférence des parties qui s'est ouverte en Égypte, une COP africaine. Mais pourquoi faire alors que le monde est secoué par les crises, que l'Europe doit faire face à la guerre en Ukraine? Que faut-il attendre de ce grand round pour le climat? On en parlera longuement tout au long de ce RTL Midi. Dans ce journal également, un tournoi sportif qui vire au drame dans l'Ain. Une petite fille de 3 ans est morte, tuée par la chute d'un but amovible. À suivre aussi, l'imam Iqiyoussen qui sort de sa prison belge, la galère des usagers du TER dans les Hauts-de-France. Et puis notre fil rouge de ce RTL Midi, le tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des Champions et des 16e de la Coupe Europa. Avec vous Eric Silvestro, bonjour.
Bonjour à tous, et oui, qui va affronter le Paris Saint-Germain, éviter le Bayern, Manchester City et le Real Madrid notamment?
On vous retrouve tout au long de l'émission, Eric.
RTL toujours plus proche de vous, dans moins de 10 minutes, RTL chez vous, un jour en France.
Droit de suite aujourd'hui dans les Vosges, au Val d'Ajol, où la mobilisation contre la fermeture d'un collège ne s'est pas arrêtée depuis la rentrée. À midi 20, RTL Midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Aujourd'hui, alerte sur le danger des paris sportifs addictifs, ils peuvent vous coûter très cher et n'épargne pas vos ados. À 12h40, plongée dans l'enfer du trafic de drogue qui gangrène les Pays-Bas et la Belgique, ministre et princesse menacés d'enlèvement quand l'Europe devient le terrain de jeu des narcotrafiquants. On reviendra sur l'enquête édifiante de notre reporter Vincent Serrano. Juste avant 13h, LVT Midi, 12 candidats, un grand vainqueur, l'album RTL de l'année. Les votes se sont ouverts aujourd'hui. Anthony Martin viendra nous présenter tous les prétendants. La question du jour sur notre site rtl.fr, à propos de la COP27, êtes-vous plus attentif qu'avant aux enjeux climatiques?
Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h avec les auditeurs. J'ajoute, les programmes d'histoire à la télévision vous passionnent-ils? Ce soir, c'est Diane de Poitiers sur France 2, c'est Marie-Antoinette sur Canal et on sera avec Madame Morini Bosque à 14h pour évoquer cela.
Avant ça, la météo avec vous, Louis Baudin, bonjour.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
Et c'est un lundi classique.
Ah ouais, très classique. Hein. Plus on ira vers le nord, plus on aura des nuages et quelques rares averses. Plus on ira vers le sud, plus ça sera du soleil.
Merci Louis, la météo complète à la fin du journal.
RTL Midi.
Le tournoi de foot a viré au drame hier à Gorvo dans l'Ain, lorsqu'un but amovible est tombé sur une petite fille. L'enfant de 3 ans qui était venu supporter sa grande sœur n'a pas survécu, Maxime Lévy.
Oui, elle s'appelait Noémie. Hier, elle était venue en famille supporter, vous l'avez dit, sa grande sœur de 7 ans qui jouait au football pour l'équipe de Pont-de-Vaux. Un tournoi qui se déroulait dans une salle de la commune voisine de Gorvo. Son maire, Henri Guillermin, raconte ce qu'il s'est passé.
Pendant le tournoi, la petite fille a dû s'amuser avec d'autres petites filles. Et elle s'est pendue à une cage de foot, une cage amovible, hein, puisque c'est du sport en salle. Et la cage lui est tombée dessus. Elle est tombée en arrière et puis la cage par-dessus. Vous avez réussi à la réanimer, mais elle est transportée par hélicoptère à Lyon, puis elle est décédée dans la nuit.
Il défend sa commune de toute responsabilité dans ce drame. Ce complexe sportif, appelé le Repère de Gorvo, est une salle de sport privée. Alors l'installation de cages de football mobile répond à des exigences strictes de sécurité précisées dans un décret de 2016. Le but doit être bien fixé, évidemment ne pas pouvoir tomber même s'il est sollicité. L'enquête judiciaire permettra de dire s'il y a eu ou non négligence.
Maxime Lévy pour RTL. Des pilotes retrouvés en hypothermie tard dans la nuit de samedi à dimanche après une course moto sur le plateau des 1000 vaches. Course sabotée d'après les organisateurs, alors que des défenseurs de l'environnement s'y opposaient. Des flèches devant guider les pilotes enduro ont été déplacées. Certains se sont donc tout simplement perdus. On y revient dans le journal de midi et demi.
RTL Midi.
En Belgique, l'imam Iqiyoussen est sorti de prison ce matin.
Alors ce n'est pas une libération à proprement parler hein, pour cet imam que la France voulait expulser mais qui s'est soustrait à la justice française en fuyant en Belgique. Pas une libération, je le disais, Elena Loison, puisqu'il est assigné à résidence.
Oui, il a quitté la maison d'arrêt de Tournai vers 10h ce matin, direction un domicile privé à Jemappe, près de Mons, là où il avait été interpellé à la fin du mois de septembre par la police belge. Il ressort avec un bracelet électronique, mais il ne pourra pas quitter la résidence où il se trouve. Contrairement à la France, en Belgique, interdiction de sortir, même à une distance restreinte de son domicile. On ne peut donc pas parler d'une libération, d'autant que la justice, la décision de le placer sous bracelet, avait été prise il y a bientôt 2 semaines, mais la justice belge a dû examiner déterminer le logement où il va résider, s'assurer qu'il peut accueillir tout le dispositif électronique de surveillance. L'imam devra, lui, quoi qu'il en soit, repasser par la maison d'arrêt de Tournai dès ce jeudi 10 novembre, date à laquelle la cour d'appel de Mons va se prononcer sur le mandat d'arrêt européen pris à son encontre. En première instance, le tribunal de Tournai avait refusé l'application de ce mandat.
Hélène Loison en Belgique pour RTL.
La COP27 s'est ouverte en Égypte.
27e conférence des partis, quelques 110 chefs d'État et de gouvernement doivent s'exprimer d'ici demain à Sharm el-Sheikh. Parmi eux, évidemment, Emmanuel Macron, alors que les émissions de gaz à effet de serre devraient baisser de 45% d'ici 2030 pour avoir une chance de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Mais à quoi sert la COP? Pourquoi les pays du Sud demandent aujourd'hui à ceux du Nord de financer les dégâts climatiques? On y reviendra longuement avec notre envoyé spécial en Égypte après le journal.
De la Toussaint sont bien terminées, mais pas sur les TER des Hauts-de-France.
Non, le plan de transport de la SNCF reste en effet en mode allégé, faute de conducteurs. Il en manque 65 chaque jour dans la région. Et mécaniquement, moins de conducteurs, et bien c'est aussi moins de trains. 136 de moins exactement sur les 1250 qui sillonnent le territoire chaque jour. Alors en gare, forcément, c'est plus compliqué pour les voyageurs, Franck Hanson.
Et sur les quais de la gare Lille-Flandre, des flots de voyageurs qui arrivent de Douai. Conséquence du manque de trains, des rames plus chargées.
Des annulations de temps à autre, des retards, mais le train bondé, on est toujours debout, c'est pénible. Il n'y a pas assez de rames. C'est des conditions, non, c'est de pire en pire. Ça ne va pas s'améliorer du tout. Il va falloir s'adapter, prendre le train plus tôt, encore une fois.
Des usagers gardent les yeux rivés sur les panneaux d'information. Olivier est médecin à Hasbro.
C'est vrai qu'il y a des fois, c'est supprimé, c'est embêtant parce que je suis obligé de commencer mes consultations en retard. Et le soir, c'est pareil. Le retour n'est pas toujours évident, et pas toujours assuré. Donc des fois, je suis obligé d'attendre une demi-heure, trois quarts d'heure en gare. Quand vraiment trop de retard, le matin, moi, je prends ma voiture. C'est un peu illogique. Je vais devoir y aller là.
Mais une majorité de TER circule et c'est le prix à payer pour la planète, relativise Florine, abonnée de la Vénois.
C'est le service public, il a ses défaillances. Ça permet d'aller au travail écologiquement, sans fatigue, parce que je vais jusqu'à Caudry, donc 1h20 de trajet.
Pour l'instant, votre train est maintenu.
Oui, pour l'instant. Bon, après, sinon, j'attendrai une heure et voilà, il arrive d'ailleurs.
Ce matin, selon un collectif de voyageurs nordistes, 21 trains ont déjà été annulés.
Franck Hanson pour RTL. La SNCF qui promet plusieurs dizaines de trains supplémentaires quand même dès la semaine prochaine. Clément Beaune, le ministre des Transports, doit lui rencontrer cet après-midi Xavier Bertrand, le président de région, pour évoquer le sujet.
C'est notre fil rouge tout au long de ce RTL Midi, le tirage au sort des Coupes européennes de football.
A commencer donc par la Ligue des Champions. Eric Silvestro, c'est vous qui suivez pour nous cette cérémonie qui a lieu actuellement à Nyon, en Suisse. On attend donc de connaître l'adversaire du PSG en huitième.
Oui, la cérémonie n'a pas encore tout à fait débuté. On vient de présenter celui qui va tirer les boules. C'est Amit Altintop, le joueur turc qui avait été finaliste de l'édition 2010 de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain, donc, qui a fini deuxième de son groupe et qui peut donc affronter que des gros morceaux quasiment. Naples, le Bayern Munich, Chelsea, Manchester City, Porto, Tottenham ou le Real Madrid. Pas de Benfica, puisque deux équipes issues d'un même chapeau ne peuvent pas s'affronter. C'est également le cas de deux équipes qui sont issues du même pays.
Porto ou Tottenham, c'est pas le Bayern de Munich quand même.
Non, hein, mais pouvoir jouer le Bayern Munich, Manchester City, le Real, on est qualifié voilà, en huitième de finale avec Champions, c'est quand même un gros morceau. Autre certitude, le Paris Saint-Germain jouera son match aller à domicile. En ayant terminé deuxième de son groupe, il est contraint de jouer le match retour à l'extérieur.
Et ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Eric Silvestro. Vous restez là, Eric, évidemment, puisque dès que ça bouge, on vous donne la parole. D'ici là, c'est à vous, Louis Baudin, de la prendre, cette parole. Vous nous avez promis un après-midi nuageux au nord, ensoleillé au sud.
Oui, ça, on en prend la direction hein, quand je regarde les images satellites. La limite, c'est à peu près La Rochelle, Besançon. Voilà, au nord, on a des passages nuageux, quelques éclaircies quand même. Et puis des petites averses un peu plus fréquentes près de la Manche. Au sud, c'est très ensoleillé. Bah, tout au long de l'après-midi, on retrouvera à peu près cette même limite hein, de la Charente-Maritime, quasiment jusqu'au Jura. Ou au nord, on aura des passages nuageux, des éclaircies aussi. Hein, il y aura quelques rayons de soleil. Et puis par moments, une averse un peu plus fréquente près de la Manche. Attention au vent qui atteindra les 70-80 km/h sur ce littoral de la Manche, notamment au nord de la Bretagne. Et puis dans le sud, là, ça restera très ensoleillé. Un petit peu de vent d'autant sur Toulouse. Et puis les températures, 15 à 17 degrés dans la moitié nord. Ça remonte un peu par rapport à hier, 17 à 21 dans le sud.
Merci.
RTL Midi, un jour chez vous.
Un jour chez vous, effectivement, et chaque jour l'info plus près de vous.
Et aujourd'hui, nous revenons dans les Vosges, au Val d'Ajol, devant le collège de cette commune de 4000 habitants. Bonjour Dimitri Ramelot.
Bonjour à tous.
Dimitri, on était déjà venu avec vous juste avant la rentrée de septembre au Val d'Ajol. Les parents de 119 élèves venaient d'apprendre que l'établissement ne rouvrirait pas à cause de problèmes de sécurité. Où en sommes-nous aujourd'hui alors qu'on sort des vacances de la Toussaint ?
Eh bien, rien n'a vraiment changé. À l'époque, les parents avaient boycotté symboliquement pendant une journée les 3 cars scolaires mis en place par le département pour transporter aller et retour chaque jour à horaire fixe tous les élèves jusqu'au collège de Plombières. C'est à 12 km de l'autre côté de la montagne, sur une route sinueuse et étroite. Ces cars roulent toujours aujourd'hui et la quasi-totalité des enfants montent à bord.
Et dans quel état d'esprit sont les parents 2 mois après ?
Eh bien, leur idée de faire revenir ce lundi les enfants au Val d'Ajol, le temps d'y organiser un collège transitoire dans des locaux municipaux, n'a pour l'instant trouvé aucun écho auprès des autorités, mais la mobilisation reste très forte. Le collectif s'est mué en association, 400 membres, soit 10% de la population, et un stand tous les dimanches sur le marché pour les adhésions.
Rien que toutes nos courses, on fait déjà tout au Val d'Ajol. Donc, s'ils ne refont pas un collège, derrière, ça se déserte un peu au Val d'Ajol. Et puis même, ça se ressentira aussi sur les commerces.
Je suis née au Val d'Ajol, donc j'ai envie vraiment que mon village reste plein d'activités, vivant en fait. Les gens en parlent beaucoup.
Alors, la page Facebook compte presque 1000 abonnés et de nouvelles actions, comme la construction d'un impressionnant abribus en bois devant le collège, ont lieu chaque semaine.
Mais alors, quelle peut être l'issue, Dimitri ?
Eh bien, écoutez, c'est très flou, hein, et les membres de l'association, comme Raphaël, ont l'impression de ne pas être pris réellement au sérieux.
On a rencontré donc le conseil départemental, on a rencontré aussi le responsable de l'académie, qui, eux, se sont renvoyés la balle pour cette histoire de collège. On voit bien qu'ils ne sont pas trop motivés pour ça. Puis nous, on a aussi rencontré le cabinet du préfet. Donc là aussi, c'est un regard un peu plus neutre par rapport aux enjeux locaux. Et nous avons aussi écrit au ministre de l'Éducation nationale qui a renvoyé notre dossier au niveau du rectorat. Donc le rectorat, c'est maintenant notre interlocuteur légitime.
Alors pas de date hein, pour l'instant pour une rencontre avec le rectorat, mais une menace aux premières gelées qui ne vont plus tarder maintenant. Les parents pourraient boycotter à nouveau les cars scolaires jugés trop dangereux.
Merci beaucoup Dimitri Ramelot.
Et vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. On va parler de la COP27, tout savoir. Je regarde Eric Silvestro, l'adversaire du PSG n'est toujours pas tombé.
Non, on n'a tiré que Leipzig pour l'instant.
Et je ne ferai pas d'humour en vous demandant l'adversaire de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions.
Oui, même en Ligue Europe.
Et même Monaco, puisque le PSG est notre seul représentant en Ligue des
Monaco
Champions.
Monaco jouera en Ligue Europe, comme Nantes d'ailleurs.
Bien évidemment. 12h13, à tout de suite.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.
Ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to declare open the 27th session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention.
Le ministre britannique Alok Sharma ouvrant donc la COP 27, 27e conférence des parties à Sharm el-Sheikh en Égypte, où les dirigeants du monde entier défilent dans ce grand raout visant à lutter contre le changement climatique. Bonjour Virginie Garin.
Bonjour.
Vous êtes l'envoyé spécial de RTL en Égypte pour suivre cette COP 27. D'abord, on a envie de vous demander à quoi ça sert une COP.
Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire COP ? Ça veut dire Conference of Parties, c'est l'acronyme anglais de Conférence des Parties. Ça veut dire qu'il y a 196 pays plus l'Europe qui sont représentés. Donc on ne parle pas de pays mais de parties. L'Europe est une partie. Alors les COP, ça sert depuis 27 ans à faire avancer les négociations sur le climat. Donc ces 197 parties négocient des textes petit à petit qui demandent aux États de s'engager. Il y a eu la COP 1, la COP 2, etc.
Qu'est-ce que ça a permis comme avancée concrète ?
Alors la COP 3 justement, Pascal, c'était celle de Kyoto au Japon en 1997. Elle a été très concrète parce qu'il y a 37 pays industrialisés qui ont signé un texte et grâce à ça, ils ont réduit de plus de 20% leurs émissions en 20 ans. Donc on peut critiquer, alors les États-Unis et le Canada n'y étaient pas, mais ça a obligé les États à faire chez eux des lois pour moins polluer. En France par exemple, les industries, les cimentiers se sont vus infliger des quotas de pollution à ne pas dépasser ou alors ils devaient payer des pénalités. Et puis autre texte important évidemment, celui de l'accord de Paris, car il a engagé là tout le monde, y compris les pays du Sud, qui eux aussi doivent réduire leurs émissions avec l'objectif de limiter la hausse de la température à 1,5 degré.
Est-ce que ce qui est décidé est contraignant, Virginie ? Est-ce que c'est aussi engageant qu'un traité international, par exemple ?
Pas du tout. C'est bien le reproche que font les ONG ici. Ce sont uniquement des promesses, des objectifs. Mais en fait, ça montre une direction et tout le monde ne va pas à la même vitesse. passe, mais au moins ça fait parler du sujet une fois par an. Et puis c'est assez fabuleux les COP quand vous êtes ici. Il y a 30 000 personnes qui viennent de tous les pays du monde, qui sont souvent d'ailleurs habillées avec leur costume traditionnel. Donc vous croisez des Saoudiens en djellaba blanche, qui croisent des dames avec des cheveux, des fleurs dans les cheveux qui représentent les îles. C'est un peu un concentré d'humanité. Tout le monde se parle ici. Donc ça sert aussi à faire pression. Il y a les ONG, les experts scientifiques qui peuvent approcher les ministres. Voilà. Donc c'est plutôt comme ça que ça avance, mais effectivement, il n'y a pas de contrainte.
Et le grand sujet cette année, c'est une forme de réparation financière des pays du Nord, les plus polluants, bien sûr, vers ceux du Sud, qui subissent de plein fouet le réchauffement climatique.
Oui, alors c'est une COP en Afrique, c'est un symbole. Hein. L'Égypte qui la préside en a fait le sujet central parce que ce sont les pays riches qui sont responsables historiquement de l'état actuel de la planète. Ce sont eux qui ont pollué et ce sont les pauvres qui en subissent les pires conséquences. On le voit aujourd'hui, le Pakistan, il y a un tiers du pays qui est sous les eaux. Il y a plus de 30 millions de déplacés. Le Sahel souffre de la famine à cause d'une sécheresse sans précédent. Donc les pauvres en subissent les conséquences et ils veulent être indemnisés. Alors Emmanuel Macron ce matin a répondu clairement non, il n'y aura pas de fonds supplémentaires. On consacre déjà suffisamment d'argent pour les aider à s'adapter. Aujourd'hui, il y a 83 milliards d'euros par an pour les aider à faire des centrales solaires, par exemple. Mais devrait être annoncé tout à l'heure un système quand même d'assurance pour les pays touchés par les catastrophes. Ce serait l'annonce du jour.
Merci beaucoup Virginie Garin en direct donc de Sharm el-Sheikh en Égypte où vous suivez pour RTL cette COP 27.
Dans un instant RTL midi votre vie, les dangers des paris en ligne, ça parle parfois football, les paris en ligne. Eric Silvestro, on sait déjà que le PSG ne rencontrera pas Manchester City.
Ah bon, c'est déjà qui va jouer le PSG. Et ce sera le Bayern Munich, figurez-vous pour le Paris Saint-Germain. Ils avaient réussi à éviter City et le Real Madrid, mais le PSG a été tiré en dernier dans la phase des deuxièmes de groupe. Et comme l'Inter était tombé sur Porto, qui était le dernier adversaire encore disponible, eh bien pour le Paris Saint-Germain, ce sera le Bayern Munich.
Il y avait une petite blague. Ah non, ça va être une catastrophe même, ça va être très rude. Mais il y avait une petite blague qui circulait que le PSG faisait des économies d'énergie parce que ça s'arrêtait en huitième ou en quart de finale de Ligue des Champions régulièrement.
Oui, quatre fois sur les six dernières saisons.
Ça, c'était sur les réseaux sociaux. Ça ne sera pas facile face au Bayern Munich. Il est 12h19. La pause, à tout de suite.
Céline Landreau, Pascal Pro. RTL Midi jusqu'à 13h. RTL Midi, votre vie.
Je vous rappelle que le PSG rencontrera le Bayern, on en parlera dans quelques minutes avec Eric Silvestro. Pour le moment, votre vie, oui, car l'info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui,
on emmène ces jeunes vers la descente. On leur dit, on t'offre 100 euros pour démarrer et pour jouer. Et donc le gamin, il se retrouve avec 100 euros. Il commence, il s'inscrit sur un site de paris sportif. Il se dit qu'il n'a pas dépensé 100 euros. Parfois, il va même gagner. Et donc, il va passer de 100 euros à 225 euros, 250 euros. Il va se dire, mais c'est simple, je vais gagner tout le temps. Et là, démarre la descente aux enfers.
Parier, c'est pas rien. Si vous avez des questions, rendez-vous sur le site.
Vous avez peut-être reconnu la voix de Mohamed Bouafsi, journaliste, notamment sur RTL, dans cette campagne de prévention de Santé publique France. Puisqu'à deux semaines de la Coupe du Monde, l'objectif, c'est de sensibiliser les parieurs, de diminuer le nombre de parieurs à usage problématique, les personnes addictes. Bonjour, Viet Nguyen Tan.
Bonjour.
Vous êtes responsable de l'unité addiction de Santé publique France. En France, 72% des parieurs ont entre 18 et 35 ans. C'est un vrai problème ?
Alors c'est un vrai problème et effectivement, comme vous l'avez souligné, les parieurs sportifs en France, ce sont majoritairement des jeunes. On sait même grâce aux enquêtes comme le baromètre de Santé publique France que 50% ont entre 18 et 25 ans, ou en tout cas moins de 25 ans. C'est un vrai problème parce qu'en fait, pour les parieurs qui jouent trop, qui jouent de façon excessive, il y a des vrais risques à la fois sanitaires et sociaux. Le premier risque, c'est un risque d'ordre financier avec un risque de surendettement qui peut mener ensuite à des difficultés relationnelles, familiales, à une forme d'isolement social, à une détresse psychologique et dans les cas les plus extrêmes, un risque suicidaire.
Est-ce que vous savez combien en pourcentage de parieurs sont addicts ?
Alors effectivement, certaines échelles validées au niveau international nous permettent d'estimer cette proportion-là. On considère que sur 100 parieurs sportifs, environ 15 ont une pratique excessive ou problématique.
C'est beaucoup,
de jeu.
Hein ?
Ce qui est considérable si on compare à d'autres familles de jeux d'argent et de hasard comme les jeux de loterie. Par exemple, vous savez, les jeux de loterie, c'est le tirage, le grattage, qui sont beaucoup moins addictifs.
Comment reconnaître un comportement addict ? Comment l'aider ?
Alors, comment le reconnaître ? Il y a plusieurs signes qui peuvent montrer qu'on peut avoir un problème avec le pari sportif, avec ce type de jeu. Le fait de miser davantage que ce qu'on avait prévu, le fait de devoir miser davantage et de plus en plus pour obtenir, vous savez, le même niveau d'excitation dans le jeu, le fait de parier souvent, le fait de devoir emprunter de l'argent à ses proches pour pouvoir gérer ses paris sportifs. Et puis un autre signe important, c'est quand le sujet devient conflictuel ou tabou avec ses proches et sa famille. Et là, en général, c'est vraiment le signe qu'il faut se faire aider, qu'il faut chercher de l'aide efficace, il en existe, heureusement. Il ne faut pas hésiter à consulter un professionnel de santé, les centres de soins d'addictologie. Et à Santé publique France, on a aussi un service qui s'appelle Joueurs Info Service, qui propose une écoute bienveillante, non jugeante, pour toutes les personnes qui sont en difficulté et également pour leur entourage.
Est-ce que vous diriez que plus on commence tôt à parier, plus on risque de devenir addict ou ça n'a rien à voir, on peut plonger très vite, c'est plus une question de tempérament ?
Il y a probablement un peu des deux. On considère qu'il y a des formes de vulnérabilité individuelle, psychologique, qui peuvent rendre plus vulnérable à une forme d'addiction à ce type de jeu d'argent et de hasard. Mais effectivement, le fait de commencer tôt, ça a probablement un impact aussi. On sait aussi que les parieurs sportifs, et en particulier ceux qui sont en difficulté dans une pratique excessive, ce sont malheureusement des personnes qui sont souvent issues de milieux modestes, plus souvent au chômage que le reste de la population. Et donc, pour ces personnes-là, il y a probablement une forme de tentative d'essayer de s'en sortir, de gagner de l'argent grâce aux paris sportifs, ce qui malheureusement, dans la très très écrasante majorité des cas, n'arrive pas.
Bon, on vient de faire le constat, on pourrait trouver des solutions qui me paraissent assez faciles, par exemple la récurrence, on pourrait imaginer que les sites interdisent de jouer plus de deux ou trois fois, que sais-je, par jour, et de la même manière pour les sommes, on pourrait imaginer qu'elles soient limitées.
Oui, tout à fait, vous avez raison. Et la régulation de ce secteur-là, c'est vraiment une des formes de solution. Il y a eu des avancées dans ce domaine-là, sous l'égide du ministère chargé de la Santé, de la Prévention et de l'ANJ. L'ANJ, c'est l'Autorité Nationale des Jeux, le gendarme du secteur, qui est en charge de cette régulation. Et notamment en matière de publicité, vous savez que maintenant, il y a un certain nombre de publicités qui sont interdites. Par exemple, celles qui suggèrent que parier, faire des paris sportifs peut permettre de contribuer à la réussite sociale, ou le fait de mettre en scène des personnalités comme des influenceurs qui sont populaires auprès des jeunes, ça c'est interdit. Donc il y a eu des avancées, mais il reste probablement encore beaucoup à faire, en particulier pour réduire la pression publicitaire en faveur des paris sportifs.
Merci beaucoup Viet Nguyen Tan, je rappelle que vous êtes responsable de l'unité addiction de Santé publique France. Merci d'être venu nous éclairer sur ce sujet dont on va évidemment aussi beaucoup parler lors du mondial de foot qui s'ouvre dans deux semaines.
Je ne vous demande pas madame si le Paris Saint-Germain battra le Bayern Munich en février prochain.
Je ne le sais pas.
On verra quelle est la cote en tout cas.
Nous non plus. Et c'est pour ça, peut-être serons-nous obligés de parier. C'était RTL Midi Votre Ville. L'info revient dans quelques instants avec le journal de 12h30. Et je vous rappelle donc qu'en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain, premier match où d'ailleurs ? À Munich ou à Paris ?
Non, au Parc. Au Parc,
ah oui, en
parce
plus.
Parce qu'ils ont terminé deuxième de leur groupe, donc ils reçoivent au match aller. Ils se déplacent au match retour.
Effectivement, c'est peut-être pas le bon choix. Et 12h28, à tout de suite.
Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi jusqu'à 13h. RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, merci de rester avec nous. Si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL Midi, il est 12h31.
RTL Midi, le 12h30, Céline Landreau et Pascal Pro.
L'heure de votre grande édition de la mi-journée avec vous, Céline.
Le PSG face au Bayern Munich en 8e de finale de la Ligue des Champions. Belle affiche, mais pas forcément le meilleur des tirages pour les Parisiens, vous l'entendrez. Une course moto sabotée sur le plateau des Mille Vaches. Ce week-end, il a fallu aller secourir les pilotes au milieu de la nuit. Certains en hypothermie, le fléchage avait été modifié. Dans ce journal également, le chèque fuel du gouvernement pour les plus modestes au moment d'allumer le chauffage. Le bras de fer qui se poursuit entre le gouvernement italien et les ONG sur le sort des migrants en Méditerranée. Juste après le journal, on vous entraîne dans l'enfer du trafic de drogue qui gangrène les Pays-Bas et la Belgique. Quand l'Europe devient le terrain de jeu des narcotrafiquants, ministres et princesses menacées d'enlèvement, Vincent Serrano, notre reporter, livre une enquête édifiante sur le sujet. Il viendra tout vous raconter. Juste avant 13h, LVT Midi, votre rendez-vous culture, avec aujourd'hui le début des votes pour l'album RTL de l'année. 12 candidats sur la ligne de départ. Il n'y aura qu'un grand vainqueur. Anthony Martin viendra vous les présenter. La question du jour sur notre site rtl.fr à propos de la COP27. Êtes-vous plus attentif qu'avant aux enjeux climatiques?
On en parlera à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole. 32-10 pour dialoguer jusqu'à 14h30. J'ajoute la phrase d'Isabella Gianni qui appelle les femmes partout dans le monde à enlever leur voile par solidarité avec les Iraniennes. Est-ce que vous soutiendrez cet appel? Est-ce que c'est le rôle des stars également de rentrer dans la vie politique?
Avant ça, la météo avec Louis Baudin, on vous retrouve pour la tendance de l'après-midi.
Oh bah c'est un grand classique, plus on ira vers le nord, plus on aura des nuages, quelques pluies, du vent, plus on ira vers le sud, plus ça sera du grand soleil.
Merci Louis, à tout à l'heure.
Jusqu'à 13h. RTL Midi.
C'est peut-être le pire des tirages pour le Paris Saint-Germain. Depuis un petit quart d'heure maintenant, les Parisiens connaissent leurs adversaires pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Ce sera donc le Bayern Munich, Eric Silvestro.
Oui, je vois Pascal Pro faire la moue, mais c'était le tirage le plus probable. Hein. 18,1% de probabilité avant le tirage. Vous savez, en fonction des pays, des groupes, vous ne pouvez pas tomber sur certaines équipes. Le tirage le plus probable pour le Paris Saint-Germain, c'était le Bayern Munich.
C'est très étrange que vous dites. Si c'est 18 d'un côté, ça veut dire qu'il y avait...
Mais par exemple, Porto, c'était seulement 11,2% oui, de chances de tomber contre Porto.
Mais vous pouviez surtout avoir 78...
Alors, plutôt 82, je dirais, mais comme ça.
Non, 82 et 18, oui, 82 de ne pas avoir le Bayern. Vous aviez 82% oui. De ne pas avoir le Bayern.
Alors écoutez, c'est le Bayern Munich.
C'était pas le plus probable.
C'est le tirage au sort.
Il y avait 82% de cas où vous ne rencontriez pas le Bayern.
Le plus probable par rapport aux autres équipes, Pascal. Bon, je vous donne juste les chiffres. Bon, en tout cas, c'est le Bayern Munich. Probabilité ou pas, c'est comme ça. Ce sera un remake évidemment de la finale de 2020 gagnée par le Bayern face au PSG. C'était pendant le Final 8 1-0. Mais depuis, le Paris Saint-Germain s'est qualifié contre le Bayern Munich en 2021. Il ne faut pas l'oublier. 3-2, 1-0 avec le doublé d'Mbappé. Avant de perdre contre City en demi-finale. C'est un tirage extrêmement difficile. Il y avait trois très gros morceaux, le Real Madrid, Bayern Munich et Manchester City. Malheureusement pour les Parisiens, donc, ce sera le Bayern Munich. Match aller, soit le 14, soit le 15, soit le 21, soit le 22 février. On attend, évidemment, ce sera au Parc des Princes le match aller, le match retour en Bavière. Pour vous donner encore un peu plus de regrets, vous savez que le Paris Saint-Germain a terminé deuxième de son groupe derrière Benfica. Benfica est tombé contre le Club Bruges en terminant premier du groupe en huitième de finale. Donc le Paris Saint-Germain, s'ils avaient terminé premier, ils seraient tombés peut-être contre le Club Bruges, ça aurait été plus abordable. Je vous donne les autres huitièmes de finale. Leipzig City, on aura un Liverpool-Real Madrid. Ça, c'est une très grosse affiche. C'était la finale de l'an dernier. AC Milan face à Tottenham, Francfort-Naples, Dortmund-Chelsea, Inter Milan-Porto et donc ce Paris Saint-Germain-Bayern-Munich.
Merci Eric Silvestro. Vous restez avec nous parce qu'à partir de 13h, c'est le tirage au sort de la Ligue Europa et là aussi, on a des...
Et révisez vos statistiques.
Non. Rennes et Monaco, elles sont justes mes statistiques, Pascal.
RTL Midi.
Est-ce une nouvelle action coup de poing de militants écologistes? L'organisateur de la course L'Enduo du Limousin dénonce le sabotage de la compétition moto qui était organisée ce week-end sur le plateau des 1000 vaches,
cher à Jacques Chirac.
Des pilotes ont en effet été retrouvés en hypothermie tard dans la nuit de samedi à dimanche. Ils s'étaient perdus et pour cause, Alexandre de Saint-Aignan, les flèches avaient été déplacées.
Il y a des endroits qu'on a refléchés trois fois.
Boris Labrousse est l'organisateur de cette course de moto qui a dû être interrompue en urgence à la tombée de la nuit samedi et depuis, il ne décolère pas.
Quand on voyait des pilotes qui arrivent souvent, c'est des gamins qui sont perdus dans l'affolement, la panique. On a eu des blessures légères. On a eu beaucoup d'hypothermie parce que, bon, forcément, il y avait un épuisement jumelé avec des températures négatives. On a miraculeusement échappé au pire.
Les derniers pilotes ont été retrouvés à minuit et demi, frigorifiés en panne d'essence à plus de 40 km du tracé. Alors il faut dire que Boris Labrousse s'attendait à une action des écologistes locaux face au passage des 430 motards sur une zone classée Natura 2000. Une manifestation avait d'ailleurs été officiellement déclarée pour barrer le parcours.
Physiquement, ceux qui étaient sur le barrage ne pouvaient pas être en train de déflécher. Donc ça veut dire clairement, ce sont peut-être des amis à eux, c'est peut-être des gens qui n'ont rien à voir avec la mouvance écologiste. Moi, je ne veux pas attaquer les gens sans en avoir les preuves. Si demain, je sais, j'ai ma petite idée. Oui, il va y avoir des règlements de compte, oui. Mais on les fera de façon tout à fait légale.
Le président du club d'enduro d'Aubusson a déposé tous les éléments à la gendarmerie et il réclame désormais une enquête.
Alexandre de Saint-Aignan pour RTL.
Coopérer ou périr, voilà le dilemme tel qu'il est posé par le secrétaire général des Nations Unies à la COP27.
Antonio Guterres évoque évidemment un choix entre la solidarité ou un suicide collectif, assurant que nous sommes sur l'autoroute de l'enfer climatique avec le pied toujours sur l'accélérateur. Emmanuel Macron lui a fait le déplacement en Égypte et le président français a été interpellé ce matin par des jeunes à propos des super profits des grands groupes pétroliers comme Total.
Quand on prend les grands groupes qui sont les nôtres, vous avez cité Total, prenons Total. Total, il ne fait pas un centime de surprofit en France. Tout le surprofit qu'il a, il est à l'international. Parce qu'il le fait plutôt qu'une entreprise chinoise ou américaine. Si je décide tout seul en franco-français de le massacrer fiscalement, qu'est-ce qu'il fera à la seconde? Il va à côté, en Belgique, au UK, peut-être en Arabie Saoudite même. Et il fera, comme son copain Aramco, 10 fois plus. Et ce n'est pas une seule seconde notre intérêt de faire ça. Les mecs vont polluer et trouver des paradis fiscaux ailleurs. Et donc, mon premier point, c'est les inégalités à l'égard des entreprises. Vous les réglez qu'avec un système de coopération internationale qui change le capitalisme, c'est la taxe minimale. Pas à l'échelle d'un État, c'est oui. Pas vrai.
Propos recueillis pour RTL par Virginie Garin.
Dans le même temps, en France, le gouvernement ouvre son guichet pour les ménages modestes se chauffant au fioul.
Ils vont pouvoir toucher un chèque énergie exceptionnel 100 à 200 euros selon leur revenu, Armelle Lévy, mais il va falloir le demander.
Oui, sauf si vous avez déjà touché un chèque énergie auparavant pour payer une facture de fioul. Là, vous n'avez aucune démarche à effectuer, c'est automatique. Vous recevrez un chèque fioul d'un montant de 200 euros avant la fin du mois. Pour les autres, par exemple, vous vivez seul et vous touchez le SMIC, ou vous élevez seul deux enfants en gagnant 3000 euros net par mois. Là, vous toucherez un chèque de 100 euros, à condition d'en faire la demande à partir de demain sur le site chèqueénergie.gouv.fr. C'est le guichet en ligne du gouvernement pour vous inscrire jusqu'au mois de mars prochain. Il y a aussi un simulateur pour voir si vous y avez droit. Si c'est bien le cas, vous recevrez un chèque fuel un mois après votre inscription. Vous pourrez vous en servir immédiatement ou dans un délai d'un an, si votre cuve est pleine. Vous pourrez aussi utiliser ce chèque pour payer d'autres factures d'énergie, comme le gaz ou l'électricité.
Armelle Lévy pour RTL. L'imam Hassan Iqiyoussen est sorti de sa prison belge ce matin. Le religieux que la France voulait expulser mais qui s'est soustrait à la justice en passant la frontière n'est pas libre. Pour autant, il est assigné à résidence. Il doit repasser devant la justice belge pour décider en appel de son extradition vers la France.
Président du Rassemblement National, mais pas candidat à la prochaine présidentielle, Jordan Bardella était l'invité de RTL ce matin.
Il l'a dit, il souhaite que Marine Le Pen soit la candidate du parti en 2027. D'ici là, Marie Mollet a lui de mettre le parti en ordre de marche et surtout de préparer les prochain scrutin.
Oui, et Jordan Bardella a déjà une stratégie et un plan d'action. Première étape, les élections européennes de 2024. Pas de suspense, il sera de nouveau tête de liste pour le RN, avec la même recette qu'en 2019, faire du scrutin un référendum pour ou anti-Macron. Objectif, arriver en tête, aspirer les électeurs d'Éric Zemmour et miser sur un effondrement de LR. Ils auront zéro élu, parie déjà les proches de Jordan Bardella. Deuxième étape, les municipales de 2026. Réussir l'implantation locale qui reste le principal échec de Marine Le Pen. Jordan Bardella veut investir des candidats très tôt, dès l'année prochaine, et travailler à des alliances avec la droite dans les villes moyennes, avec des maires qui pensent déjà comme nous, dixit un cadre. Enfin, miser sur le ruissellement des nouvelles villes RN sur les départements, les régions, pour créer un boulevard vers la présidentielle. La victoire serait dès lors presque mécanique à entendre Jordan Bardella. Commentaire d'un cadre de reconquête, attention au péché d'orgueil, c'est quand on est trop sûr de soi qu'on trébuche.
Marie Mollet pour RTL, Jordan Bardella qui a concédé ce matin sur RTL que les propos du député Grégoire de Fournasse, je cite, qu'il retourne en Afrique, n'étaient pas très fins et que le député RN sanctionné par l'Assemblée nationale ne deviendrait pas porte-parole du parti.
Grégoire de Fournasse qui avait prononcé ces mots, on le rappelle, alors qu'il était question du sort d'un bateau affrété par l'ONG SOS Méditerranée pour venir au secours de migrants.
Des bateaux humanitaires que l'Italie refuse d'accueillir. Le nouveau gouvernement de Giorgia Meloni n'a autorisé hier que le débarquement de mineurs et de personnes souffrant de problèmes médicaux. Olivier Bonnel, le bras de fer continue donc entre le gouvernement italien et les ONG.
En sélectionnant les migrants susceptibles de débarquer sur le sol italien, le gouvernement a provoqué la colère des ONG et de l'opposition. Le député de gauche Aboubakar Soumaoro a lui pu monter hier sur l'un des navires dans le port de Catane en Sicile pour lancer un appel.
Présidente Meloni, vous avez juré sur la constitution italienne et vous ne pouvez pas tordre la charte constitutionnelle pour des jeux qui conduisent à une dérive inhumaine.
Pas question de reprendre la mer avec des migrants, arguent les ONG, ce serait contraire au droit international. Le bras de fer entre humanitaire et gouvernement semble parti pour s'installer. Un autre navire, l'Ocean Viking de SOS Méditerranée, attend toujours dans les eaux internationales avec 234 personnes à son bord.
Olivier Bonnel, correspondant de RTL en Italie. La météo, on vous retrouve comme promis Louis Baudin pour un grand classique.
Ah non, ça fait trois fois que vous le dites.
Non, pas du tout, c'est simplement la deuxième. Et vous êtes menteur, Pascal, je ne l'ai dit qu'une fois. Damien, est-ce que vous pouvez ressortir la bande ? Ça a été le premier lancement, après j'ai dit soleil au sud, nuages au nord.
En tout cas, ça ne va pas changer la prévision. Ça ne changerait pas. On aura effectivement des nuages dans la moitié nord. La limite, c'est La Rochelle-Besançon. Au nord, donc des passages nuageux, quelques éclaircies, des averses. Beaucoup de vent près de la Manche, hein, jusqu'à 70-80 km/h. C'est le cas en ce moment sur le nord de la Bretagne, sur le Cotentin. Et dans la moitié sud, hein, au sud de cette ligne, là, ça restera très ensoleillé, avec un petit peu de vent d'autant sur la région toulousaine, jusqu'à 60 km/h. Les températures, 15 à 17 degrés dans la moitié nord. Ça remonte un peu par rapport à hier. 17 à 21 degrés dans la moitié sud.
J'ai appris quelque chose que je ne savais pas, Louis, et je vais vous faire des habits. Parmi ceux qui nous écoutent, vous êtes supporter du Paris Saint-Germain ?
Ah bah oui, en ce moment, oui, je trouve que c'est l'équipe qui joue le mieux.
Ah bah écoutez, c'est bien, vous étiez inquiet donc de ce tirage.
Ah bah totalement, ouais.
Il est 12h43, on marque une pause ?
Oui, et dans un instant, on retrouve Vincent Serrano sur cette enquête édifiante, plongée dans le narcotrafic aux portes de la France, en Belgique et aux Pays-Bas.
A tout de suite.
Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes la minute.
RTL Midi. Pascal Praud et Céline Landreau.
On vit dans un narco-État et moi je vous dis qu'on ne pourra pas gagner la guerre contre eux. Vous vous rendez compte de ce qui se passe ? C'est fou, ces tentatives d'enlèvement, le meurtre d'un avocat, et ils ne vont pas s'arrêter là.
Le témoignage de Luc, cet habitant d'Amsterdam que vous avez peut-être entendu ce matin sur RTL, car toute la semaine nous vous proposons une plongée dans l'enfer du trafic de drogue qui menace aujourd'hui jusqu'au plus haut sommet de l'État, en Belgique et donc aux Pays-Bas. Bonjour Vincent Serrano.
Bonjour.
C'est vous qui avez réalisé cette longue enquête que l'on va découvrir tout au long de la semaine dans le journal de 8h, jusqu'au plus haut sommet de l'État, je le disais, et ce n'est pas un abus de langage, puisqu'un ministre et une princesse ont été menacés d'enlèvement.
Le tout quasiment dans la même semaine. Aux alentours du 22 septembre, c'est à cette date-là qu'un simple coup de téléphone va sauver le ministre belge de la Justice. Frédéric Van Leu, le procureur fédéral, l'appelle. Je vous donne la conversation un petit peu en substance. Monsieur le ministre, l'heure est grave. Une menace d'enlèvement vous concerne, elle est sérieuse, elle est surtout imminente. La réponse, impensable, c'est du jamais vu en Europe, et pourtant, au bout du fil, son interlocuteur insiste.
Ah bah, il a écouté, il sait aussi que je ne le téléphone pas pour n'importe quoi. Très surpris, mais on a quand même eu quelques alertes avant, on a eu des informateurs, des contacts internationaux. On a aussi directement mis en place aussi une protection pour lui et pour sa famille.
Une façon officielle de dire que, pour la première fois dans l'histoire du plat pays, un ministre est emmené en quelques minutes avec femme et enfant dans une « safe house ». Un anglicisme, mais c'est pour dire qu'il a été emmené dans un lieu tenu secret, ultra sécurisé pendant plusieurs jours. Aucune apparition publique. Dans le même temps, aux Pays-Bas, c'est la princesse héritière Amalia, 18 ans, qui est menacée d'enlèvement. Plusieurs fois, et là aussi, en quelques minutes, il lui a fallu quitter sa colocation étudiante à Amsterdam, retourner au palais où elle vit depuis recluse. Très peu de sorties autorisées, uniquement en véhicule blindé.
Et qu'est-ce que le trafic de drogue vient faire là-dedans ?
Dans le cadre de la princesse, justement, les autorités et tous les spécialistes que j'ai rencontrés pensent que son enlèvement servirait de monnaie d'échange avec Ridouane Taghi, qui est sans doute en ce moment le plus gros trafiquant en Europe. Il est incarcéré aux Pays-Bas, à la prison de Wurt, alors que son procès se tient dans la banlieue d'Amsterdam. Pour le ministre belge de la Justice, c'est encore plus précis. Les policiers ont retrouvé, lorsqu'on le prévenait justement d'un possible enlèvement, les policiers ont retrouvé un véhicule devant son domicile. Trois personnes ont été arrêtées. Des Néerlandais. L'un d'eux était connu pour un fait d'enlèvement aux Pays-Bas, mais il n'était pas connu de la police belge. Alors ils ont pu repartir. Mais entre-temps, quelques minutes plus tard, les policiers ont aussi retrouvé un autre véhicule avec des liens de contention, une Kalachnikov et de quoi incendier la voiture après le possible enlèvement. Voilà, tous ces faisceaux font que les autorités sont quasiment persuadées que ces menaces d'enlèvement sont l'œuvre de la Mocromafia, qui est peut-être là aussi la principale organisation criminelle qui est en charge du trafic de drogue aux Pays-Bas et en Belgique, notamment à Anvers. Il faut savoir que, de toute façon, la Mocromafia est très connue aux Pays-Bas et diffusée aussi, là aussi, en Belgique. Vous avez une série qui s'appelle Mocromafia, une série télévisée qui cartonne. Vous avez déjà 4 saisons qui ont été diffusées.
Mais ça représente quoi, Vincent, ce trafic ? La Belgique, les Pays-Bas sont vraiment gangrénés par le trafic de drogue ? On peut dire ça ?
Oui, on peut dire ça, parce qu'on s'en tient aux chiffres officiels. 90 tonnes de cocaïne. uniquement de cocaïne. Je ne vous parle pas du cannabis, je ne vous parle pas des amphétamines, etc. 90 tonnes de cocaïne saisies l'année dernière. On va clairement dépasser ce chiffre cette année-là. À Anvers, qui est le principal port où transite la drogue pour ensuite partir aux Pays-Bas ou ailleurs en Europe, notamment en Allemagne, à Anvers, le taux de cocaïne recensé dans les eaux usées est le plus important au monde. C'est-à-dire que la cocaïne là-bas est absolument partout. C'est surtout, là encore, quand on parle du trafic, et notamment du trafic de cocaïne, ça représente à peu près 60 milliards d'euros. C'est l'équivalent du budget belge des retraites. C'est surtout 10 à 20 fois plus que le budget de la police fédérale.
Pardonnez-moi, pourquoi on la retrouve dans les eaux usées, la cocaïne ?
Vous pouvez parfois avoir des policiers qui sont prêts à faire une saisie ou en tout cas une descente dans un labo potentiel de fabrication ou de coupage de la cocaïne. Et puis là, on est obligé de l'acheter. Vous avez aussi les utilisateurs, mais dans les rues, etc.
En France,
alors si en France, c'est très difficile de comparer. C'est le jour et la nuit dans tous les cas. Vous avez des saisies de cocaïne qui sont effectuées dans des grands ports français comme le Havre ou à Cherbourg, mais c'est rien de comparable, là encore une fois, avec ce qui se passe à Anvers et à Rotterdam, parce que c'est vraiment la voie privilégiée par tous les pays d'Amérique latine.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, bien sûr. Et votre enquête fait froid dans le dos, bien sûr. On peut la réécouter, bien sûr.
Alors, en fait, ce sera un épisode chaque jour, dans le journal de 8h. Et pour ceux qui sont moins matinaux, c'est aussi à 19h, hein, c'est ça, Vincent.
Et donc, on peut la réécouter sur le site, bien évidemment, en réécoutant les programmes ou de la matinale ou du 19h.
Les podcasts ou le site RTL.
Ben, merci beaucoup. Laissez-vous tenter dans une seconde. Et on est avec Anthony Martin. On va parler de quoi, d'ailleurs ?
De l'album RTL de l'année, Pascal.
Et la campagne est lancée.
Et ben, c'est parfait. À tout de suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL. Laissez-vous tenter midi.
La culture se met à table tous les jours dans RTL Midi. Aujourd'hui, on parle musique avec vous, Anthony Martin. Bonjour.
Bonjour, bonjour à vous.
Bonjour, Anthony. Vous êtes là puisque depuis ce matin, on peut voter pour l'album RTL de l'année.
Oui, c'est un rituel depuis maintenant 17 ans sur RTL. On invite les auditeurs à voter pour élire l'album RTL de l'année. Alors, qui sera le 17e lauréat du prix créé en 2006 ? C'est à vous de jouer. Hein. Il suffit d'aller sur notre site RTL.fr, sur la page dédiée à l'album RTL de l'année ou sur l'appli RTL. C'est très facile, ça prend moins d'une minute. On clique sur l'album de son choix. C'est hyper facile. On peut voter qu'une seule fois par jour jusqu'au 20 novembre.
Mais on peut voter tous les jours, donc ?
Oui, une seule fois par jour, mais tous les jours.
On a le choix entre 12 albums, oui. Anthony. On les découvre avec vous ?
Oui, allons-y. La sélection a été faite par la programmation musicale de notre station. Pour être retenu, d'ailleurs, je vous le dis, un album doit être un nouvel enregistrement studio. Deux chansons majoritairement originales, album d'un artiste vivant, français ou francophone. En voilà d'abord 6, sortis entre novembre 2021 et mars 2022. Voulez-vous bien danser ce soir, comme si c'était la dernière nuit ? Nolwenn Leroy, La Cavale. Comme si nous deux c'était pour la vie, c'est une formule aussi. Si le président remporte la moitié des voix, c'est qu'il le tient de la civilisation. Pas besoin de savoir c'est quoi le Sénat pour voir que les vieux riches font les lois. Juliette Armanet, Brûler le feu. Angèle, 95. Ça c'est Marc Lavoine, adulte jamais. Adulte
jamais. Arlette, arrête. Toi la fête, tu la passes aux toilettes.
Et si vous l'avez reconnu, c'est Stromae et son album Multitude.
Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas.
Et les 6 autres ?
Bah, les voici, toujours par ordre de sortie, entre avril et octobre 2022. On y va. Mathieu Chédid, Rivalité. Être l'un et l'autre sans rivalité. Encore une fois. Ça fait Marie-Flore, je sais pas si ça va. L'amour s'arrête là. De quoi tu me parles ? Dans ma tête, y'a toi et moi. Slimane, chronique d'un cupidon. Benjamin Biolay, Sinclair. Ouais. Christophe Willem, Panorama.
Et je vole encore dans ma joie, j'en veux encore même si je comprends pas.
Et Adé avec son album Et alors. Voilà les 12. Dans la course à l'album RTL de l'année 2022, tout le monde peut voter, donc sur RTL.fr, sur l'appli RTL, jusqu'au 20 novembre, un vote par jour. Ça fait une belle photo de l'année au rayon chanson française.
Votre favori, Pascal ?
Moi, j'aime bien Slimane et j'aime bien Angèle, mais j'ai l'impression que c'est Nolwenn qui est la vétérante, et elle est toute jeune, c'est pour ça que je dis ça, c'est ce qui est frappant en écoutant cette sélection.
La sélection est jeune. Il y a Marc Lavoine. Hein,
oui, il y a Marc Lavoine, mais c'est très jeune. Quoi.
Oui,
c'est des gens qui, il y a 5 ans, n'existaient quasiment pas.
Ben oui, la sélection est jeune, mais Nolwenn a déjà reçu le prix de l'album RTL de l'année, c'était en 2013 d'ailleurs.
On ne va pas vous demander votre favori, Anthony, j'imagine que vous avez un devoir de neutralité, mais lequel a le mieux marché en termes de vente ?
En vente physique, c'est-à-dire en nombre de CD vendus sur l'année 2022, c'est l'album Civilisation d'Orelsan. Il devrait dépasser les 300 000 exemplaires écoulés sur cette année. Ça sera la meilleure
vente. C'est
du rap,
a priori, Orelsan.
Oui, bien sûr, c'est du rap. Mais c'est du rap très accessible. Voilà. Après, c'est du rap uppercut. Il a le talent de toucher à la fois le public rap, mais aussi les adultes. C'est pour ça qu'il vendra plus de 300 000 encore albums cette année. Et il avait déjà vendu 340 000 albums en 2021, c'était la meilleure vente de l'année 2021. Orelsan, c'est l'ovni du moment, hein. C'est vraiment ça.
Alors Orelsan, il a quand même quelques années de carrière derrière lui. Il n'est pas nouveau, il a une petite dizaine d'années quand même.
Bien sûr, mais regardez par exemple le podium de l'année 2022 en termes de vente physique. Derrière Orelsan, c'est le rappeur Ninho. Il a 26 ans. Voilà, ouais. C'est lui certainement qui devrait aussi arriver à 300 000. Mais Ninho, c'est le roi du streaming. C'est vraiment un de ceux qui gagne sa vie aujourd'hui. Et comment ? Grâce au streaming. Il a 26 ans. Et sur la troisième place, c'est Stromae. C'est lui qui arrivera troisième des ventes de l'année au rayon musical.
Je pense à ceux qui nous écoutent. Et peut-être, c'est très générationnel, bien sûr, la musique. Et ceux qui ont passé 55 ans et qui nous écoutent en ce moment, peut-être ne connaissaient-ils pas un seul artiste que vous venez de citer ? Peut-être.
Marc Lavoine, oh, quand même.
Marc Lavoine, peut-être. Mais oui, c'est vraiment... Et là,
Mathieu Chédid, Benjamin Biolay, Christophe Willem.
Oui, c'est pour ça que j'ai dit peut-être.
Ouais. Donc, vous avez raison. En tout cas, pour les découvrir et les connaître, direction RTL.fr.
Exactement.
Et sur RTL.fr, je rappelle qu'on retrouve aussi votre podcast Focus, oui. Anthony Martin, dernier épisode. Vous nous parlez du phénomène Black Panther, c'est la pépite de Marvel. Merci beaucoup, Anthony.
Merci.
Merci, Anthony. Vous pouvez donc voter les auditeurs dans une seconde, il est 12h59.
RTL Midi.